Bienvenue, chers amis à l'écoute, pour passer quelques instants en compagnie de Saint François. Un dimanche des rameaux de pure soie. À la grand-messe, l'orgue joua et l'évêque bénit les branches d'olivier. Aux premières rangées, Claire et sa famille étaient à genoux sur des coussins. Son père était fort et hautain, avec des yeux gris, bridés, et une barbe blonde en collier autour de sa face rouge. Il causait sans cesse avec son frère Bernardo, brutal comme un boucher. Claire se tenait entre sa mère et sa sœur cadette Agnès. Et derrière elle, le chevalier, grand et réservé, qui voulait l'épouser. À part sa tante, tout le monde ignorait que Claire fuirait ce soir la maison paternelle. Elle était vêtue de soie blanche bruissante qui exhalait un parfum de fleurs. Ses mains et sa gorge étincelaient de joyaux. Ses longs yeux bleus rivés à l'autel ne voyaient pas l'autel, mais la vision de l'amour et de la pauvreté. On ne l'avait jamais vue si belle, et l'on songeait. Quel bonheur d'être si belle et si riche! Elle était belle et riche, mais cette nuit, elle embrasserait la vie des pauvres. Dans son âme, elle exultait. Cependant, elle demeura calme comme une statue. Calme et forte. L'évêque se mit à distribuer les rameaux, et le peuple à la file vint les recevoir de sa main. Le cœur chanta. Des branches d'olivier à la main, des enfants d'Israël allaient à la rencontre du Seigneur, jubilant et criant « Hosanna, gloire au Seigneur dans les cieux !» Ce chant, qui semblait modulé pour elle, la toucha au cœur. Sa gorge blanche battait. La famille de Claire alla recevoir le rameau béni. Claire demeura à genoux, paralysée d'émotion. Elle demeura immobile et regarda. L'évêque l'attendit. Tout le monde l'observait. Quand il vit qu'elle ne venait point et qu'elle désirait pourtant la branche sainte, il alla lui-même vers elle et la lui remit en main en la regardant profondément dans ses yeux purs. Elle eut l'intuition qu'il savait tout. Alors elle courba la tête pour cacher les larmes qui montaient. Le jour passa au milieu des parents et amis et son chevalier ne la quitta pas un instant. On se promena et on joua dans le grand jardin. Il y eut de la musique et des chants. Et Claire chanta avec les autres. De ce jardin, on pouvait voir le bois de la Portioncule, là-bas, dans la vallée. Mais personne ne regardait de ce côté. Claire, moins que quiconque, elle se tenait calme et forte. La tante, au contraire, était nerveuse d'angoisse et elle dut se retirer dans sa chambre. Le coucher du soleil fut très beau. Tout ce jour-là était beau. Soudain, le ciel fut plein d'étoiles. Et ainsi la nuit arriva, une belle nuit emplie de senteurs et de silence. La vie s'éteignit dans Assise et on alla se coucher. La tante descendit encore une fois pour verrouiller les portes. C'était sa tâche à elle. Tout semblait absorbé, englouti dans l'éternité. Vêtue encore de sa robe de soie blanche, Claire, sur son prie-Dieu, veillait. Elle ne priait point. Toute à désirer, à écouter. Elle écouta la nuit. Mais la nuit ne parlait point. Sur la pointe des pieds, elle s'approcha de la petite fenêtre. Jamais elle n'avait vu tant d'étoiles. Dieu, dit-elle, et elle courba la tête. Puis elle la releva, ravie, exaltée, et regarda comme par-delà les étoiles, baignée dans une douce nostalgie. Après un long moment, un fragment de lune monta au-dessus de la vallée. Elle chercha des yeux le bois dans l'ombre moelleuse sans le trouver. Mais, au loin, une petite lumière bougea. Là était le bois. Son cœur se mit à battre très fort. Elle écouta. Quelque chose toqua très, très doucement, comme un tarot. Elle sentit à l'air que la porte s'ouvrait. À tâtons, elle s'en approcha et prit la main tendue qui la cherchait. La main de sa tante était fiévreuse. Dans l'obscurité, elles descendirent l'escalier de pierre jusqu'au jardin. La tante couvrit Claire d'un manteau et l'emmena par la pelouse, loin dans le jardin, vers une petite porte qui ne servait plus depuis des années. La fine lueur de la lune y éclairait des pierres moussues, une statue brisée de Vénus, parmi les herbes folles et le lierre. Avec une hâte prudente, la tante se mit à déblayer le seuil. « Pourvu qu'elle s'ouvre !» chuchota Claire. « Sinon, j'escalade le mur. » Elle se sentait tout à coup agitée, comme si toute la maison, et toute assise, glissait vers elle pour la retenir. « Pas de danger, » dit la tante, « elle est déverrouillée depuis hier déjà. » De son pied, elle écarta encore quelques pierres, et puis, d'un brusque mouvement, elle ouvrit la petite porte. À leurs pieds s'étendait la vallée, faiblement éclairée d'un peu de lune. « Viens, » dit la tante. Elles suivirent un sentier semé de grosses pierres et puis elles arrivèrent en terrain plat. La tante redevint nerveuse. « Et ton père, » gémit-elle, « il me tuera. »« Prions, » dit Claire. Elles longèrent un ruisselet. Là-bas, une lumière bougea, puis une autre et encore une dizaine au moins. « Les frères, » dit la jeune fille. Les frères approchaient et au milieu d'eux, cet homme de petite taille, c'était François. Alors Claire s'arrêta et s'inclina. « Loué soit Dieu, ma sœur, parce que vous êtes venue, » chuchota la voix du père. Et ensemble, entourés des frères et des flambeaux, ils s'enfoncèrent sous bois en silence. Devant l'autel, ils s'agenouillèrent et levèrent des yeux ardents vers la Madone dans l'ombre. François se tenait devant elle, une robe de bure sur le bras. Tout autour, statues de bronze, quelques frères levaient des torches. Les autres demeuraient dehors, la chapelle étant beaucoup trop petite. Et dans le plus fervent silence, François prononça « Ma sœur, voici le céleste habit de la pauvreté. »« Merci, » murmura Claire. La tante l'aida à ôter ses bijoux et sa robe de soie. François lui passa la bure, une grossière bure brune rapiécée çà et là et que serra au rein une grosse corde. « Vos chaussures, ma sœur !» Elle enleva ses petits souliers de soie rouge et ses bas blancs. Elle chaussa ses pieds blancs de sandales de bois. « Et vos ?» il n'acheva point, mais un frère lui tendit des ciseaux. Elle le regarda avec une grande joie parce qu'il lui enlevait tout. Car plus il lui prenait, plus riche serait-elle en mérite. Elle secoua pour la dénouer sa chevelure qui ondula sur ses épaules comme un manteau doré et elle s'inclina. Ses cheveux merveilleux, il les prit dans sa longue main obscure, ouvrit les ciseaux, les ferma 3 ou 4 fois. Sa main se rouvrit et les boucles tombèrent en désordre par terre auprès de la robe de soie, la ceinture d'argent, la coiffe de perles, les joyaux, les souliers rouges, tout cela répandu comme un amas de fleurs fanées. Il la bénit. « Ma sœur, » dit-il, « désormais, vous êtes l'épouse du roi de lumière. » Elle leva sur lui des yeux reconnaissants et un collier de perles roula sur ses joues. Les frères commencèrent à chanter. Portant des branches d'olivier, les enfants d'Israël allaient à la rencontre. Tout le bois résonnait de leur chant. « Venez, ma sœur, » dit François, et quittant les frères qui chantaient, ils s'en sont allés ensemble avec 2 autres frères portant chacun une torche. Ils allaient mettre le trésor précieux à l'abri de la colère de son père, au couvent de Saint-Paul, là-bas, quelque part dans les marais. La lune les accompagna. la grande nouvelle parcourait le monde que les Maures étaient boutés hors d'Europe et s'étaient réfugiés outre-mer dans leurs bois et déserts. Ces sales païens qui adoraient Mahomet et profanaient le Saint-Sépulcre de notre Seigneur Jésus. Tout cela est bel et bien, disait François, mais notre Seigneur est mort pour tous, aussi pour les Noirs de visage. Qui donc ira le leur dire? Qui leur portera la lumière? Il pensait sans cesse à ces pauvres Maures. Il avait tellement pitié d'eux. Laissez-moi aller à eux, Seigneur, si j'en suis digne. Et oui, ils peuvent le tuer à coups de bâton, le clouer sur une porte, le scier en tronçons, le couper en morceaux. Ah, s'ils voulaient faire cela, troquer son sang contre leur conversion, y a-t-il plus grande félicité? Rien ne pouvait plus le retenir. Et un beau jour, il partit pour Rome, demander au pape son consentement. Il reçut l'autorisation. Et le pape était satisfait de la croissante et belle persévérance de l'ordre des frères mineurs et de la fondation des sœurs pauvres, car Claire ne demeura pas longtemps seule. Sa sœur Agnès, elle aussi, fuit la maison paternelle et se fit couper les cheveux par François. Aussitôt d'autres demoiselles se joignirent à elle, et François obtint des bénédictins que les sœurs pussent mener leur vie pauvre dans le petit bâtiment de Saint-Damien. La famille, qui dans sa première fureur avait essayé d'enlever Agnès, était complètement résignée à présent. Le père de Claire disait « Il n'est que des gens de sang noble pour exécuter de tels exploits avec tant de tempérament. » Et tandis que François séjournait à Rome et faisait s'emplir les églises par ses beaux sermons, de toutes parts des gens accouraient pour l'inviter à leur faire l'honneur d'une visite. « Ce sera une bénédiction pour nous. » Mais il n'alla chez personne. Il restait dans le petit couvent des croisiers. Parmi ces personnes désireuses de le recevoir chez elles, il y avait une jeune femme, mère de deux enfants, qui s'appelait Dame Jacqueline Franquipani. « Allez lui rendre visite, conseilla le prieur des croisiers. Elle vit comme une sainte. » Qui lui fit visite. Pourquoi à cette famille et non aux autres? La Providence le voulait ainsi. Dame Jacqueline était une femme de 25 ans, belle et imposante, avec de grands yeux noirs. Elle ne le reçut point dans une salle somptueuse de son palais, mais le mena dans la cellule où elle passait sa vie. Et quelle cellule! De pierre brute, blanchie à la chaux, meublée d'une table en bois blanc, de deux chaises de bois et d'une paillasse sur une planche. Et sur le mur nu, rien qu'un petit crucifix. Elle lui offrit là du pain et de l'eau, il joignit les mains. « Voilà ce qu'il faut, jubila-t-il, et il s'entretint de la simplicité de la vie de notre Seigneur. Maintenant, vous allez goûter les petits gâteaux que je cuis moi-même de temps en temps pour les enfants. » Elle apporta un plat de petits gâteaux couleur de soleil, fait de miel et d'amandes moulues et de farine de froment. Délicieux, ces petits gâteaux. « Esquis, à n'en jamais perdre le goût, » dit-il. Il en accepta trois, puis un quatrième. Lui, le mendiant, qui se contentait des reliefs des tables, qui se faisait conduire la corde au cou pour avoir déjeuné un jour d'un merle frit, il était friand de ses gâteaux et sans un brin de remords. Tant qu'il demeura à Rome, il revint chaque jour chez Dame Jacqueline, parler de Dieu et manger de ses délicieux gâteaux. « Dame Jacqueline, disait-il, votre grande piété et votre amour de la pauvreté font de vous un de nos frères. Vous êtes frère Jacqueline. » Muni d'une petite besace de vivres et d'une grande confiance, en compagnie de frère Bernard, il cingla vers les hommes noirs. Mais après quelques jours de mer, une tempête violente se déchaîna et le bateau, mât rompu et voile déchirée, échoua sur la côte de Slavonie. Adieu les Maures ! Il ne pouvait être question d'aller plus loin avant le printemps. Ils cherchèrent un port. Là, un bateau allait appareiller vers leur pays, mais on ne leur permit pas d'y monter. « Laisse-moi faire, » dit François à Bernard. Et le soir venu, ils se glissèrent en tapinois dans le navire, se cachèrent derrière des balles et des caisses, et ne sortirent de leur cachette qu'une fois au large. Peu s'en fallut que les matelots ne les jetassent par-dessus bord. « Nous n'avons pas même assez de vivres pour nous. » Alors François montra sa besace, et les figures s'adoucirent. Ils regardaient constamment en arrière. Là-bas, là-bas, habitaient les morts, dont les âmes obscures criaient vers la lumière. « C'est que je ne suis pas digne du martyr, » soupira-t-il. Ils débarquèrent à Ancône et à pied, ils s'en retournèrent chez eux, prêchant. Chemin faisant, il leur arriva beaucoup de nouvelles brebis, une trentaine au moins, qui abandonnèrent leurs parents, leur métier et leur maison, aspirés par la pauvreté et l'amour. Ouvriers et paysans vigoureux et incultes, avocats d'Isère, aubergistes, soldats, tous renouvelés, armés de bonne volonté et d'une dévorante flamme de foi. Il lui advint un jour de prêcher dans un couvent de nonnes. Un grand poète s'y trouvait ce jour-là, le troubadour Divini, venu visiter sa sœur religieuse. Divini était célèbre par tout le pays et Rome l'avait couronné roi des poètes. Et avait-il vu des fêtes celui-là, dans les châteaux et les cours durant sa vie errante? Mais malgré sa renommée et son art, il n'était pas heureux du tout. C'était une âme insatisfaite, lasse de vivre, une âme agitée et inquiète. Et cela à l'âge de 40 ans. Cet homme se voyait sombrer dans l'orgie et le désespoir. Et quand il entendit prêcher François, il songea. Quelle sornette! Au début seulement, car il continua d'écouter, et ses yeux s'ouvrirent, puis son cœur, et bientôt il pleura. Quel art sublime avait ce moine chétif, de dire des choses avec grandeur et simplicité, imprégnant tout de clarté céleste. Divini était pris, il joignit les mains et dit « Voilà donc vers quoi tendait toute ma vie, et je ne le savais pas. » Il en fut hors de lui toute la journée, et le soir, fouetté d'une ardeur nouvelle, il sauta en selle pour rejoindre les frères partis. Il les trouva dans la campagne, qui marchait sous la pluie en chantant. Il tomba à genoux devant François. « La paix » implora-t-il, « la paix !»« Lève-toi et viens avec nous, frère pacifique, » lui dit François en le bénissant. Mais comme il fut saisi en apprenant que c'était Divini, qu'il avait tant admiré jadis, autant que lui-même songeait à devenir troubadour, voici que le roi des troubadours venait à lui. François le baisa sur son fin visage. Dans la pluie, un chant d'action de grâce monta. Divini donna son cheval à un paysan pauvre, déposa sa mandoline au pied de la Madone dans une petite chapelle rustique, et revêtant une bure rapiécée, il accompagna les frères dans la montagne. Ce retour se changeait en une véritable marche triomphale. Dans tous les villages, des gens accouraient, criant « Voilà le saint !» et partout sonnaient les cloches. « De grâce, cessez !» supplia François. « N'oubliez pas que je suis un homme comme vous. Tout ce que je fais, un pécheur le peut. Jeûner, prier, pleurer, mortifier sa chair, un pécheur peut tout cela. Non, demeurez fidèle à Dieu. » Toute la ville d'Assise sortit à sa rencontre avec musique et bannières, et les frères chantaient les psaumes. Toute cette vénération lui déplut. S'il savait quel combat il avait chaque jour à livrer à frère Anne, il ne la clamerait pas. Mais essayez donc de le leur faire admettre. Dans toute cette gloire, il se trouvait seul et abandonné, avec un cœur soupirant après Dieu. il tenta de chasser sa détresse en chantant. C'était pis. Claire seule pourrait lui verser un peu de lumière. Dès le lendemain, il alla la trouver. Entre deux murs de neige, il arriva à Saint-Damien. Il y faisait sombre, gris et froid comme dans un caveau. L'humidité congelée aux murailles était devenue cristal. Claire était partie mendier en ville avec une autre sœur. François la priait un temps devant le crucifix qui naguère lui avait parlé. Quand elle apprit sa venue, Claire accourut aussitôt. Elle l'emmena dans le réfectoire nu. Oh, comme il avait vieilli! Ses joues émaciées, ses lèvres si blêmes. Elle fit allumer tout de suite un petit feu pour lui chauffer les pieds. Il ne la quittait pas des yeux. En ces quelques mois, comme elle était changée, quelle belle force, quel pouvoir surnaturel irradié de son visage. Elle respirait la paix. Ses yeux rayonnaient de pur bonheur et d'amour. Un ange. Il sentit l'infinie distance entre elle et lui. Elle possédait cette pure clarté dont il ne conquérait qu'une étincelle à force de combat quotidien. Il se sentit tout obscur dans sa lumière. Et voyez comme elle l'admirait. Elle buvait ses paroles, les pauvres paroles qui disaient le voyage échoué. Son conseil lui semblait sans écho. Quel conseil pouvait-il lui donner? C'était trop ridicule. Honteux, il dit, je reviendrai bientôt. Dehors, il se sentit plus misérable que jamais. Il marcha dans la neige profonde, il était dégrisé devant sa petitesse. J'eusse mieux fait de ne jamais commencer l'œuvre que j'ai entreprise, soupira-t-il. Je suis un être inutile, à charge d'autrui. Claire et Léon et toutes ces âmes magnifiques ne seraient-elles pas arrivées sans moi à la sainteté? J'ai une trop grande idée de ma personne. Pourquoi ne suis-je pas resté un simple fidèle comme le paysan que voilà? Celui-là, du moins, est utile. Un paysan passa, portant un enfant sur les épaules et en tenant un plus grand par la main. Et ce paysan lui lança un clair bonjour. C'est étrange comme une pensée se développe. Tout un jour, cela demeura suspendu dans son cerveau. Être utile. Il paraissait sombre et peu disposé à parler. Le désespoir lui souffla. Le bonheur est pour tous, sauf pour ceux qui triment et s'éreintent comme moi. La nuit, il n'en put dormir et le lendemain, il s'en alla en quête de solitude. Loin, très loin dans la montagne, afin de pouvoir crier une bonne fois sa douleur. Les sommets enneigés résonnaient de ses cris, mais le calme ne vint pas. Vers le soir, il atteignit une haute cime dominant le lac de Trasimène qui luisait, noir dans la blancheur des neiges. Là-bas, très loin, sur un soleil rouge sombre, assise s'enfonçait lentement dans le soir. Il s'attarda à contempler la ville, jusqu'à ce que l'ombre fût tout à fait venue et que se fût levée la lune. Oh, ce silence sans fin sur les monts, où son cœur battait encore plus fort. Il se traîna plus loin, jusqu'à l'un des petits ermitages qu'il avait fondés là. Qu'ils étaient heureux de le revoir, les petits frères prisonniers de l'hiver, mais il ne pouvait leur dire des paroles de joie. Il demeurait assis, immobile. Il accepta contre cœur un bol de lait chaud. « Êtes-vous malade, père ?» demanda l'un des quatre frères. « À l'âme, dit-il, j'ai besoin d'air. » Et il sortit, errant de nouveau. Un frère le suivit de loin, de peur que ne lui arrivât quelque mal. Le vent se leva, rasa la neige bleutée de lune, souleva en longue traînée la poussière de neige. Pour le cœur de François, point d'accalmie. Il se glissa dans une fente de rocher, tomba à genoux, et le front contre terre, pria. Mais le découragement redoubla, s'aiguisant de tentations charnelles. Cela jamais. François se révolta contre lui-même. Sors d'ici, Satan, cria-t-il. Je te chasserai à coups de discipline. Il ôta sa bure et se mit à flageller son maigre corps avec sa cordelière. Un cri lui échappa. Il frappa encore. De douleur, il tâta ses côtes. Sa main s'y mouilla de sang. Du sang. Mais les visions impures ne pâlissaient point. De rage, il s'arracha tout vêtement et courut dehors dans la neige froide. Un peu plus tard, monta de la grotte un cantique doux et pur, un chant plein comme d'un violoncelle. « Mon Seigneur et mon Dieu, je vous aime par-dessus tout ce qui vit. Je vous aime par-dessus toutes choses. » Dans la nuit du mercredi des cendres, une barquette glissa sur le lac de Trasimène vers un îlot. François était assis à la poupe avec deux petits pains sur ses genoux. Un batelier ramé qui se fût fait frère mineur s'il n'eût eu charge de famille. On n'entendait rien que les rames et l'eau qui en dégouttait. Le lac n'avait pas une ride. Les étoiles brillaient dans l'eau aussi pure que dans le ciel. Après un long trajet, la barque s'engagea dans des roseaux. « Nous y sommes !» dit le batelier. François prit ses petits pains et sauta sur la rive. « C'est convenu, pas un mot, à personne, et tu ne viens pas me reprendre avant le matin du jeudi saint. Dieu te bénisse !» La barquette disparut dans la nuit. François demeura seul, environné d'eau, sur une petite île où jamais n'abordait personne. Il s'assit sur une pierre pour attendre le matin. Il contempla les étoiles, soupirant vers Dieu et vers le ciel. Plus tard, le mont Soubasse se teinta d'un reflet de rose. Le matin bondit d'une montagne à l'autre, et quand François put y voir assez, il explora l'îlot sauvage en quête d'un petit oratoire. Tout était encore dénudé par l'hiver. Des oiseaux s'envolaient et des lapins se garaient d'un bond. De grands rayons jaillissaient maintenant de derrière les monts lointains et l'eau frissonnait d'écailles d'or. Tout à coup, il s'arrêta devant un bosquet d'aubépines creux à l'intérieur. « Voilà ce qu'il me faut, une maison en couronne d'épines !» jubila-t-il. « Merci, ô mon Dieu !» Il écarta quelques branches, se glissa dans l'abri et tombant à genoux cria. « Dieu, donnez-moi la force de passer ici avec votre divin Fils les 40 jours de jeûne. » Et sans regarder désormais le soleil ou la lune, il se mit à prier, à invoquer Dieu à haute voix, à chanter ses louanges. Les jours se suivaient. Régulièrement vers le soir, il faisait une fois le tour de l'île, grande à peine comme un village, et retournait à sa cabane d'épines pour y dormir. Un matin, à son réveil, un lapin était là, qui regardait les babines tremblantes sans envie de s'enfuir. François caressa la douce bête. Elle se laissa faire et le suivit. Elle lui tenait compagnie dans sa prière et ses promenades du soir. Il lui cherchait de la bonne nourriture qu'elle venait manger dans sa main, tandis que lui, la faim lui creusait et brûlait les entrailles. Ah, la faim le tenait. Il s'affaiblissait et maigrissait à vue d'œil. Mais il ne touchait point au petit pain. Parfois seulement, il avalait une gorgée d'eau pour éteindre le feu de sa gorge et de sa poitrine. Par la faim et le dénuement, son âme étincelait de délices spirituels. Maintenant, il avait place pour Dieu. Il s'emplissait de Dieu et il débordait parfois d'une telle douceur céleste qu'il chantait en pleurant les bras au ciel. La solitude, l'eau et les monts et l'infini silence. Était-il là depuis peu ou depuis longtemps? Il n'en avait cure. Et plus il s'affaiblissait, plus pur devenait son bonheur. Il se moquait des petits pains. Un matin, comme il sortait en chancelant de son oratoire, car il ne pouvait presque plus se tenir debout, il vit approcher la barquette. Jeudi saint, il bondit de joie. Il avait jeûné 40 jours, comme Jésus. Mais soudain, il frémit de regret. Il allait revenir parmi les hommes, où l'âme s'obscurcit et se déprime. Ah, pouvoir demeurer là, où il faisait si beau. Et à sa grande surprise, il vit comme le printemps avait travaillé effectivement. Partout de la verdure, et des herbes, et des pâquerettes, et des violettes. Et sa maison de couronne d'épines toute blanche de fleurs. Et partout des gazouillis d'oiseaux. Il avait si peu regardé la nature, toujours tournée vers son âme, vers Dieu. La barque aborda, il regarda d'abord les petits pains. Avoir jeûné 40 jours comme Jésus. Mais soudain, il rougit de honte et d'étonnement. « Mon Seigneur, cria-t-il, je ne veux point me mesurer avec vous. » En hâte, il brisa un des pains contre une pierre, du pain vieux de 40 jours, trempa les morceaux dans l'eau et en mangea la moitié, par respect pour le jeûne de Jésus. La barquette glissa dans les roseaux. Il serra la patte au petit lapin et lui dit « Adieu, frérot !» Muni d'un pain et demi, il entra dans la barquette. Le batelier se mit à genoux devant lui, parce qu'il voyait dans ses yeux quelque chose du ciel. À la Pentecôte, les frères arrivèrent de partout à la Portioncule pour s'y assembler en chapitre et recevoir les instructions de François, car leur nombre s'était accru tellement et ils habitaient si loin qu'il était impossible d'aller les visiter d'ermitage en couvent. De là ce chapitre en la fête du Saint-Esprit pour qu'ils puissent se refaire le cœur par la belle et bonne fraternité spirituelle. Ils construisirent des huttes de branchages. Les bonnes gens apportaient des vivres et les oiseaux prenaient part au repas. Chaque frère avait son franc-parler. Chacun, à tour de rôle, exposa ses intérêts avec une grande douceur inspirée par la charité. François fit un beau sermon. Et tous ensuite s'en retournèrent comme rénovés, pleins de zèle, rajeunis et de courage. Et après leur départ, François sortit prêcher avec Ange. Un de ces jours-là, ils arrivèrent dans la petite ville de Montefeltro. Il y avait fête au château parce qu'un noble était fait chevalier. Toute la noblesse de 7 lieues à la ronde y paradait dans ses plus beaux atours et regardait du haut des tribunes les joutes et tournois. « Il y a là de quoi prêcher, dit François. Allons-y. » Un tournoi venait de finir, un autre allait commencer. Les trompettes allaient sonner lorsque tout à coup, sans être invité ou attendu, un petit moine se tint debout au milieu de l'arène. Les spectateurs étaient surpris. Mais avant qu'on pût crier un mot, pour ou contre, François se mit à chanter la strophe d'une ballade, puis à prêcher sur la grande valeur d'une vie pénitente. Il était là, hirsute, émacié, déguenillé, parlant et criant à toute cette noblesse et tous ces maîtres du pays. Ses gestes étaient vifs, sa voix aiguë et par moments son ardeur l'emportait à tel point qu'il dansait presque. Et tous l'écoutèrent, comme on écoute le tonnerre et la musique, dans un silence tel qu'on entendait frissonner les bannières et les oriflammes dans l'air. Il y eut des larmes, des paupières baissées, des cœurs battants, des soupirs. Et lorsqu'il s'en alla, ce fut dans un grand enthousiasme d'ovation et de voiles agitées. À peine avait-il quitté le château qu'un certain comte Orlando courut après lui pour l'entretenir de son âme. « Bien, dit François, mais allez manger d'abord. » Ils se rejoignirent après dans un verger. Écoutant les douces paroles de François, le comte pleura et dans sa vénération fervente, il lui donna pour y prier une montagne. Le mont Alverne qui atteint les nuages. Là-bas, dans la province de Casentini, François accepta cette montagne, mais en rentrant, il lui semblait qu'il emporta tout le poids. Une montagne pour y prier. Ah, son séjour dans la petite île avait attisé encore son désir de solitude. Pouvoir parler avec Dieu, seul à seul, sur une montagne. Mais n'était-ce point là de l'égoïsme? Ne devait-il pas au monde sa parole, lui qui s'efforçait d'imiter la vie de notre Seigneur? Notre Seigneur était allé aux hommes. Il se troubla au point de ne plus savoir choisir. Il consulta l'Évangile. Tantôt, il lut « Suivez Dieu dans la solitude » et tantôt « Allez et enseignez toutes les nations ». Il cria vers Dieu. Mais Dieu se taisait comme tué. Il rentrait chez lui, François, replié, demeurait les yeux vides, à regarder la pure certitude des autres, jusqu'à l'instant où sa pensée alla à Claire. Cherche la clarté où elle est. Il pensa y aller lui-même, mais il se retint. Elle l'honorerait et servirait de nouveau comme un maître. Il ne pouvait souffrir cela. Il ne le méritait point, lui, si lâche, si indécis. Il appela Masséo, ce digne homme, lui conta sa peine et dit « Va trouver Sœur Claire et demande-lui ce que je dois faire. Et va aussi trouver Sylvestre dans sa caverne du Subasio. Ce qu'ils diront, je le ferai. » Cette nuit-là, il la passa à genoux, refoulant obstinément tout désir de la solitude. Il voulait laisser parler Dieu nettement par ses deux âmes cristallines. Et quand un matin, Masséo s'avança hors du brouillard, François alla respectueusement à sa rencontre. « Ne dis rien encore, supplia-t-il, tout à l'heure dans le bois. Je te laverai d'abord les pieds et je te donnerai à manger, car comme un ange, tu portes dans ta bouche la parole du Seigneur. » Il lava les pieds de Masséo, lui offrit du pain et du lait, et ensuite ils entrèrent dans le bois. Là, dans le silence et la rosée du matin printanier, François se mit à genoux devant lui, les bras croisés sur la poitrine, et écouta, humble et soumis, comme fit la Vierge quand l'ange lui apporta la bonne nouvelle. « Prêchez !» dit Masséo. « Prêchez !» s'écria François, et l'Esprit de Dieu frémit en lui. Il se releva joyeux. « Prêchez ! Prêchez ! Nous partirons aujourd'hui même !» Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais à très bientôt.